Jean Pronovost aura servi le Québec comme haut fonctionnaire et sous-ministre à la main-d'œuvre et la sécurité du revenu, à l'environnement et la faune, à l'industrie et commerce, aux affaires municipales et à la métropole, au développement économique, à l'innovation et l'exportation. Il a œuvré aussi dans des conseils d'administration, par exemple à la SGF, la Société générale de financement, à Montréal International, à Financement Québec, au Violon du Roi et à l'Institut national de l'optique. Dans l'agroalimentaire, on le connaît pour sa présidence de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec. Le rapport qu'il déposait en 2008 a fait grand bruit, surtout parce qu'il recommandait la fin du monopole syndical de l'UPA. Au cours de la dernière année, j'ai discuté à quelques reprises avec Jean Pronovost. Je vous propose de réécouter l'entrevue qu'il m'accordait à la suite du dépôt du dernier budget du gouvernement libéral. Jean Pronovost affirme qu'il écrirait en 2018 un rapport assez semblable à celui qu'il déposait en 2008. Il lui faudrait cependant, dit-il, moderniser certains éléments à la lumière des progrès technologiques de la dernière décennie. Le tout récent budget du ministre Carlos Letao consacre un chapitre au bioalimentaire. Cette portion des documents se veut d'ailleurs l'assise de la future politique bioalimentaire. Mais, selon Jean Pronovost, il y manque des éléments. Monsieur Jean Pronovost, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Pronovost, vous avez assisté à la présentation à huis clos du budget. Si on regarde le volet agroalimentaire ou, dit-on plus particulièrement dans les documents gouvernementaux maintenant, le budget bioalimentaire, qu'est-ce qui seraient les lignes qui vous frappent, là, qui sont du plus grand intérêt pour vous?
Bon, d'abord, il y a le langage qui est remarquablement positif. On utilise là plein d'expressions qui n'allaient pas de soi nécessairement il y a quelque temps. Exemple, la multifonctionnalité de l'agriculture. Exemple, la pluralité des modèles. Exemple, les liens entre l'agriculture et la médecine. La nourriture, la bonne, la saine nourriture et ainsi de suite. Je me souviens d'avoir été rappelé à l'ordre par des professeurs de l'Université Laval qui disait « Quel lien vous faites entre l'agriculture et la médecine? » Pas la même affaire. L'agriculture, c'est un secteur industriel. On a dépassé ça et de beaucoup. Et puis le discours sur le budget reprend ce meilleur discours, ce discours plus tourné vers l'avenir. Par contre, quand on regarde derrière les phrases, premièrement, il manque certains aspects. Autant on parle bien d'environnement, autant on parle de développement du territoire, autant on va parler de médecine, autant on ne parle pas beaucoup de soutien bien organisé, structuré à la production agricole, quelle qu'elle soit.
Tous les modèles, gros et petits.
Tous les modèles, gros et petits, on ne parle pas de ça. J'entends pas parler beaucoup de protection du territoire agricole. Puis pourtant, près de la moitié des terres agricoles ou classées agricoles au Québec ne sont pas utilisées à des fins agricoles. Quand on parle de développer son potentiel, on pourrait penser à ça, hein? Bon. Puis l'autre chose, on avance certains montants, mais il n'y a pas nécessairement toujours des grandes cohérences entre ces montants, dans le sens que, par exemple, on va parler beaucoup de bio pour justifier ce développement d'une agriculture qui atteint un meilleur potentiel. Par contre, les montants qu'on avance sont de petits montants comparés à l'ensemble des montants qui sont mis en cause et qui semblent toucher plus les infrastructures que le bio comme tel ou la conversion des fermes ou l'aide aux agriculteurs qui veulent adopter le biologique. Et puis, on nous promet une politique. Et puis, on attend toujours de voir un peu de quoi elle va être faite.
Le ministre Lessard a dit à quelques reprises ces dernières semaines que le budget ferait foi de tout pour ce qui est de la future politique. Donc, les montants qui sont énoncés, on parle de 348, 349 millions d'argent nouveau répartis sur 5 ans. Est-ce que ça vous apparaît suffisant d'une part et est-ce que la politique, de par ce qu'il y a dans le budget, vous apparaît être assez englobante, là?
Bon, les montants en question, je le soulignais tantôt, ne sont pas nécessairement des montants qui sont cohérents avec les objectifs ambitieux qu'on met de l'avant. Et d'un, deux, ces montants-là, on ne sait pas de quoi ils vont être faits en pratique, qu'est-ce qu'ils vont produire. On faut attendre la politique pour ça, puis on ne le sait pas là, avec le budget de l'État. On sait les secteurs où il va investir, où le gouvernement va investir ces fonds-là, mais on n'en est pas beaucoup plus...
On n'a pas de détails.
On n'a pas de détails, oui.
Monsieur Pronovo, est-ce que vous voyez toujours des documents comme ceux-là, et tout particulièrement ces éléments de la future politique bioalimentaire, du moins est-ce qu'on peut en trouver dans le budget de M. Letao? Est-ce que vous voyez toujours ça avec le filtre de votre rapport qui a maintenant 10 ans? Là?
En bonne partie, oui. Pas totalement, non. Bonne partie, oui, parce que ce qu'on a écrit, ce qu'on a mis de l'avant en termes là, de priorité, nécessité d'action, c'est encore valable. C'est encore valable. Par contre, il y a 10 ans, il y a des phénomènes qui étaient moins accusés, qui ont fait moins l'objet de représentation de la part de ceux qui sont venus nous voir et que le rapport reflète moins vivement que certains de ces thèmes-là pourraient le faire aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples, les changements climatiques. Il y a 10 ans, on en parlait, mais c'était encore...
Ça nous apparaissait très lointain.
C'est ça. Fait que le rapport ne reflète pas ce qui reflèterait aujourd'hui si on le reprenait aujourd'hui à la faveur de phénomènes comme celui-là.
Mais à la base, là, pour de grands éléments comme la multiplicité de notre agriculture, la diversité des modèles, la nécessité d'occuper le territoire avec, on pourrait dire, une agriculture éclatée, tout ça, à la base, ça, vous êtes toujours convaincu de ça?
Oh, mon Dieu, c'est plus vrai que jamais, à mon humble avis. C'est plus vrai que jamais. Il y a tellement d'appétit chez certains jeunes pour prendre l'agriculture. Les fermes sont tellement chères à acheter ou à monter à partir de rien qu'il faut leur donner une chance. Et leur donner une chance, c'est d'adopter d'autres stratégies de s'établir pour qu'ils puissent s'établir en agriculture.
Donc, vous réécririez sensiblement le même rapport, mais en modernisant certains des phénomènes, comme vous le disiez tout à l'heure, tout ce qui est de changement climatique, tout ce qui est de progression technologique, Internet et tout ça.
Tout à fait. Internet et tout ce qui s'appelle la numérisation. Aujourd'hui, on voit apparaître des gens dans des champs, dans des superbes tracteurs avec des GPS, et puis ils vont faire l'ensemencement, ils vont faire l'engraissement de la terre ou le travail de la terre en fonction là, de ce que leur GPS leur dit de faire.
Dernière question, M. Pronovo, et je l'ai volontairement gardée pour la fin parce que c'était quand même la 47e, 48e recommandation sur l'exclusivité syndicale. Ça, vous le réécririez encore aujourd'hui sur le fait qu'il faudrait une multiplicité de possibilités pour les agriculteurs d'adhérer à des groupes syndicaux de leur choix?
Oui, oui. Ça fait partie, ça, de la recette, si on peut parler de recette, pour avoir une agriculture qui est plus progressive. Il faut que certains sujets d'intérêt communautaire, d'intérêt sociétal pour l'agriculture, certains de ces sujets-là doivent être débattus par l'ensemble des citoyens du Québec. Actuellement, à cause de la structure qu'on s'est donnée, qui a eu un effet positif il y a un certain temps, aujourd'hui, cette structure-là empêche le dialogue. Puis qui dit empêcher le dialogue, dit on s'empêche de faire des progrès. On s'empêche de regarder différemment certains éléments de culture chez des agriculteurs qui mériteraient d'être remis en cause.
Et là, je reconnais tout à fait les propos. On pourrait reculer de 10 ans et vous auriez fait le même énoncé.
Il y a 10 ans, je parlais... Et je parle encore aujourd'hui d'un système qui avait eu ses effets bénéfiques et qui avait été mis en place alors que les agriculteurs gagnaient moins que le salaire industriel moyen payé au Canada. C'était des gens plutôt pauvres qui se faisaient un peu prendre pour compte, qui se faisaient aussi, dans certains cas, exploiter puis on a voulu leur donner un système pour qu'ils se tirent mieux d'affaires sur le plan de l'économie, la rentabilité économique et puis la vitalité économique des familles en qui habitaient ces fermes-là. Et puis on s'est donné un système que j'ai comparé à une forteresse. On a mis en place toute une série d'éléments interreliés qui ont, dans les faits, installé une véritable place forte. Mais avec le temps, la place forte s'est transformée en un lieu de confinement. On étouffe là-dedans. Il faut un peu d'air. Sans jeter la plateforme à terre, là. On veut pas raser ça, on veut garder nos acquis. Mais si on lui donne un petit peu plus d'air, elle pourrait aller plus loin, plus vite, et puis nous donner, comme société, des bénéfices beaucoup plus importants. C'est très, très intéressant comme instrument de développement économique de l'agriculture.
Donc, on garde la forteresse, mais on laisse les portes ouvertes.
Oui, si vous voulez. Oui, l'expression est bonne.
Monsieur Jean Prenevot, merci beaucoup, puis au plaisir de se reparler.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Ici Lionel Levac. Jean Prenevot aura aussi été le premier président de l'Institut Jean Garon, une organisation voulant stimuler la discussion, le débat et la sensibilisation agricole dans la société québécoise. L'Institut, cependant, ne trouve pas l'appui et l'adhésion souhaités, du fait qu'il soit essentiellement soutenu par ce que j'appellerais le noyau dur des personnalités et organisations s'opposant au monopole syndical de l'UPA. Au revoir.